France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un enfant a-t-il vraiment besoin d'un papa et d'une maman ? JFK a-t-il été assassiné par la CIA ? Les aides sociales coûtent-elles trop cher à l'État ? Et bien sûr, les Illuminati contrôlent-ils secrètement la planète ? Théorie du complot, fake news, idées reçues et distorsions de l'information. Si vous avez le moindre doute, il est grand temps d'avoir les idées claires.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Au Venezuela, les opposants au régime maduriste se préparent aujourd'hui à une grande manifestation sous la forme d'un arrêt de toute activité pendant quelques heures à l'appel de l'opposition et du président autoproclamé Juan Guaido. Ce dernier a été interdit de sortie du territoire. Ses avoirs ont été bloqués par la Cour suprême vénézuélienne aux ordres de Nicolas Maduro. Les États-Unis, eux, ont à nouveau brandi la menace de sanctions. La Maison-Blanche tente d'asphyxier le pays pour permettre une transition plus rapide. Theresa May va tenter de renégocier un Brexit sans backstop à Bruxelles. C'est le sens de l'adoption hier par les députés britanniques de l'amendement Brady, un amendement qui demande donc la suppression de cette frontière temporaire entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande après la sortie de l'Union. Bruxelles s'y oppose, mais la Première ministre va tenter de prouver que si ce backstop est renégocié, alors c'est tout l'accord sur le Brexit qui peut être adopté par son Parlement, une façon de gagner encore un peu de temps. En Afghanistan, le processus de paix entre talibans et les États-Unis n'a jamais semblé aussi proche d'une issue, au dire en tout cas des négociateurs américains. Au Qatar, les deux parties ont discuté ces 6 derniers jours. Principale concession des talibans, éviter que le pays puisse servir de base à des organisations terroristes, une simple promesse verbale selon des experts. En France, la loi anti-casseurs discutée cette nuit au Parlement. Le texte crée un malaise jusque dans la majorité. Le gouvernement affiche sa tolérance zéro contre les violences face à une gauche qui dénonce, elle, une dérive autoritaire. Et puis c'est au Sénat qu'est examinée en ce moment la loi Pacte pour les entreprises qui doit permettre, entre d'autres mesures, la privatisation des aéroports de Paris. Hier soir, les sénateurs ont voté les dispositions en faveur de la simplification de seuil de salariés dans les entreprises.
29e édition du Festival Présence, festival de création musicale de Radio France, du 12 au 17 février. Le compositeur allemand Wolfgang Rimm est le héros de l'édition 2019. 15 concerts, 38 compositeurs, 54 œuvres, 20 commandes de Radio France, 21 créations mondiales, 8 créations françaises. Le Festival Présence à Radio France, du 12 au 17 février. Plongez au cœur de la création.
6h02 sur France Culture, très bon réveil culturel à toutes et à tous avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et mercredi, c'est cinéma. Aujourd'hui sort, justement à Paris, dans les grandes villes, Pearl, le premier long métrage d'une réalisatrice française qui nous fait découvrir le monde particulier des bodybuildeuses, des femmes qui pratiquent le bodybuilding. C'est une belle réflexion sur la féminité, sur le rapport au corps. Et à partir d'une matière documentaire et très contemporaine, la réalisatrice Elsa Amiel nous livre une fiction qui s'apparente à une tragédie antique. Elle est notre invitée ce matin.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour tout le monde, bonjour Elsa Amiel.
Bonjour.
C'est un jour important pour vous qui commence. Votre premier long-métrage Pearl sort aujourd'hui.
Oui, un mélange d'excitation et de trac.
Parlons un peu de vous, puisque c'est votre premier long-métrage et sans doute votre première interview, grande interview à la radio. Vous avez commencé le cinéma très jeune, vous êtes né en 1979, mais vous avez commencé très jeune, à l'âge de 18 ans. Vous avez débuté d'ailleurs votre carrière en tant qu'assistante de Raoul Ruiz sur la comédie de l'innocence, et puis ensuite, très longtemps, vous avez été première assistante pour Mathieu Amalric, pour Bertrand Bonello, pour Noémie Lvovsky et pour Riyad Satou. Vous avez réalisé deux courts-métrages avant ce premier long-métrage et dans un des deux, il était déjà question de décor, hein, cette fois-ci avec l'histoire d'un boxeur. Et vous avez une façon vraiment propre à vous à filmer les corps, c'est-à-dire en montrant bien des parties. Le spectateur doit reconstituer le puzzle. On n'est jamais dans une situation de voyeur, mais c'est quand même une invitation à voir le corps, hein, à voir les corps.
Oui, puis à sentir les corps, c'est-à-dire y a une recherche de la sensation, de la chair. Ça, c'est une approche qui m'intéresse. Bon, la question du corps en général, la question de sa représentation, et puis la question de mon travail en tant que réalisatrice pour représenter et sentir ce corps, raconter un film à travers un corps.
Là, on est dans une atmosphère de représentation voulue, mais c'est aussi toute la tension de la compétition sportive que vous essayez de capter à travers le corps de ces femmes qui s'adonnent au bodybuilding et qui font des compétitions, parce que la dramaturgie de votre premier long métrage Pearl tourne autour de ça aussi.
Oui, là, on est dans le royaume de l'apparence par excellence. Donc évidemment, leur outil, leur identité, c'est leur corps. À ces athlètes, bon, à beaucoup de sportifs, mais je crois que dans le bodybuilding, cette discipline, bon, bah, comme son nom l'indique, c'est vraiment la construction du corps. Et donc, c'est leur façon d'exister, de se représenter. Donc,
et de pousser les limites, hein,
ah oui,
au maximum, c'est
absolument,
ça.
Absolument, quand vous parliez de tragédie, enfin, y a, voilà, cette idée, effectivement, de tout le temps repousser les limites et puis d'avoir un idéal, un objectif évidemment de ne jamais atteindre cet idéal, donc d'être tout le temps dans la recherche constante, dans la souffrance, et évidemment dans quelque chose qui échappe complètement
au protagoniste. Mais alors pourquoi cet intérêt pour cette thématique, Elsa Amiel?
Alors le corps, vous voulez dire?
Ben oui, le corps.
Écoutez, je suis fille de mime. Voilà, mon père est mime. J'ai grandi vraiment dans les théâtres et dans les coulisses, et il m'a appris, il m'a enseigné aussi l'art du mime. Donc voilà, le langage chez moi, dans ma famille, ça passait d'abord par le corps. Donc je sais très bien que ça vient de là et que cette question de comment vit-on à travers son corps, pour son corps, par son corps, est une question qui m'a toujours intéressé, interpellé.
Et le bodybuilding alors, féminin?
Alors là, c'est plusieurs choses. Voilà, c'est cette première chose qui est le corps, évidemment. Et puis après, c'est au moment où on écrit, on cherche son sujet, on cherche un univers. Moi, j'aime les films d'univers et d'atmosphère. Et je suis tombée sur le travail d'un photographe allemand qui s'appelle Martin Scholler, dont je connaissais les portraits. Il a photographié de nombreuses célébrités dans des lumières très crues au néon.
Quand vous dites célébrité, plutôt du showbiz?
Oui, du showbiz, de la politique aussi, des acteurs et puis des hommes et femmes politiques.
Un portraitiste donc.
Oui, vraiment, ce sont des gros plans avec vraiment un grain de peau très spécial. On voit tous les petits défauts, toutes les...
C'est pas photoshopé, comme on dit.
Oh, peut-être. Bon, disons non. en tout cas, c'est un traitement très particulier. On a un rapport au personnage, on a l'impression de capter quelque chose de très intime. Et il a fait un travail sur des bodybuildeuses. Il a photographié des bodybuildeuses juste avant une compétition. Donc c'est sur fond blanc. Ce sont des portraits en plan poitrine. Et j'ai eu une sensation très étrange qui était vraiment un mélange de répulsion, d'attraction aussi. Ça me posait des questions sur le genre, parce que évidemment il y avait quelque chose d'ultra féminin, pardon, et puis évidemment les attributs masculins, je dirais, qui est ce corps démesuré.
Et qui donne une impression de foire, on peut le dire.
Ben, j'ai l'impression que c'est aussi... C'est justement ce qu'il ne fallait pas faire. Enfin, plus exactement, je crois que c'est l'idée, c'est la première idée qu'on a. On se dit, effectivement, c'est un phénomène de foire, c'est bête de foire.
Alors, comment déconstruire cette idée? C'est l'idée de votre film.
Eh bien, la première chose, c'est qu'il fallait aller au contact de ces athlètes. Et c'est ce que j'ai fait tout de suite pour savoir si justement le bodybuilding serait vraiment le contexte de mon film.
Et c'est développé en France à ce point? Parce que c'est un monde que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir vu votre film, Elsa Amiel.
C'est un monde qui est assez amateur en France. C'est pas dans la culture française. C'est plus américain. Évidemment, puisque c'est le bigger than life, donc c'est toujours plus grand, c'est plus fort, c'est plus beau. Voilà, toujours cette idée de repousser la limite. En France, ça reste une discipline qu'on cache, hein, et puis assez amateur, où il y a peu d'argent, qu'on met souvent en périphérie des villes. Il y a pas mal d'adeptes.
Et qui viennent de quels milieux sociaux ? Ou une catégorie sociale plus particulière
Ça concerne tout le monde. Disons que ce qui lie toutes ces personnes serait à un moment donné dans leur vie une blessure. C'est de la psychologie de petit matin, un peu primaire. Mais c'est vrai que c'est toujours parti d'une blessure ou d'une faille énorme. Mais à tel point que leur réponse à cette blessure, c'est de se fabriquer une carapace pour ne plus pour dépasser cette blessure. Et à tel point que, évidemment, ça va les isoler dans un monde absolu. Il y a plus de contact avec notre monde à nous. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est de se dire que tout d'un coup, ils créaient une nouvelle planète, un nouveau monde, avec des nouveaux codes, où ils vivaient entre eux, et qui leur permettaient pas d'être...
Mais avec un public.
Un public, un petit public.
Un petit public.
Oui. Comme je vous disais, aux États-Unis, il y a des très grosses compétitions de bodybuilding. C'est assez suivi. Il y a des stars de bodybuilding. En France, c'est beaucoup plus confidentiel que ça. Même le public. C'est souvent la famille, les amis, bon, des gens, des fans, ce qu'on appelle des fans. Mais ça reste confidentiel.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est de la fiction, bien sûr, vous nous l'avez dit, Elsia Amiel, vous êtes beaucoup documentée, vous avez suivi ces bodybuildeuses de nombreuses semaines, des mois même, avant d'arriver à raconter cette histoire. Est-ce que ça se passe sur la carrière d'une d'entre elles? Pearl, elle renvoie à une personnalité qui a existé, elle emprunte beaucoup de ces bodybuildeuses que vous avez rencontrées, puisque vous faites jouer le rôle principal par une femme qui pratique le bodybuilding.
Oui, la matière documentaire, c'est Julia. Après, c'est un personnage qui était très écrit, qui existait d'emblée, qui évidemment était nourri par mes rencontres avec des bodybuildeuses et puis de thèmes que je voulais traiter. Donc, il y a toute une part de fiction.
Pour Julia Fauri, vous dites Julia, donc elle est très connue dans ce milieu.
Je le dis pour vous, mais oui, elle est connue parce qu'en fait, il y a très peu de monde, de femmes, surtout de cette catégorie dans le monde. Donc en fait, dans ce monde-là, elle est connue, oui. Elle a été championne dans une compétition qui s'appelle le Arnold Classic, qui est la compétition d'Arnold Schwarzenegger, qui reste le dieu dans ce domaine. Et voilà, elle a gagné deux fois cette compétition, donc elle est reconnue.
Et voilà. Et vous avez inventé autour de cette personne, de cette sportive, une histoire, une fiction, une dramaturgie. On en parle dans un instant, Elsia Amiel.
Mon père, il m'a dit que tu connaissais des super-héros. Spider-Man, il y a aussi Hulk, qui se transforme en un gros truc vert, énorme et super musclé. Encore plus grand que toi et plus...
Troisième athlète, Léa Peur.
Who's the monkey?
It's the son I had. I didn't want him.
You abandoned him? You can't win a title with a kid, you know that?
C'est vrai que t'es ma mère? T'es plus forte, moins forte que Spider-Man.
plus.
Elle s'appelle Léa Pearl. Elle s'apprête à participer à une compétition d'envergure pour le prestigieux titre de Miss Heaven. Et son entraîneur, il espère bien, après des mois de travail acharné, revenir sur le devant de la scène grâce à elle. Mais à quelques heures de ce match, de la finale, moment très, très tendu, l'ex-mari de Pearl apparaît avec Joseph, leur enfant, cet enfant qu'elle n'a pas vu depuis 4 ans. Donc, cette sportive est mère de famille. Elsa Amiel, c'est un peu le sujet de votre premier long métrage qui sort aujourd'hui, Pearl. L'idée de rappeler que ces sportives ont aussi une vie dite normale, c'était pour vous la matière de la dramaturgie centrale de votre film.
En partant d'une héroïne qui est hors norme, d'une femme qui est hors norme, c'est-à-dire rien ne correspond à ce qu'on attendrait d'une femme. À la fois les formes féminines, le goût du sacrifice.
Pour l'éducation de son enfant, ouais.
Oui, voilà, excusez-moi, j'ai perdu le fil.
Le goût du sacrifice.
Le goût du sacrifice, effectivement, c'était l'idée de sortir de la norme et donc de pousser cette question de la féminité jusqu'à la maternité et de se dire, oui, cette femme qui s'est construit ce corps a été mère. Et comment, avec ce corps, avec cette nouvelle vie, elle va renouer petit à petit avec son fils, la chair de sa chair.
Et l'idée du scénario, que je trouve très original, c'est de laisser à son enfant le soin de poser les questions et les remarques qu'on se fait tous quand on voit ce genre de corps sculpté par tant d'acier, par tant d'efforts, le corps des bodybuilders. Parce qu'il lui dit, mais super-héroïne ou super-encombrante mère, c'est ça
ben. C'est sa porte d'entrée, puisque lui, il parle de son âge et de ce qu'il connaît. Et de ce qu'il aime,
et il sent et que de ce qu'il a entendu dire.
Et ce qu'il a entendu dire, mais qui est dans un rapport plus doux, qui est plutôt dans un rapport de fascination plutôt que dans un rapport de répulsion, qui serait plus adulte, plus général. Lui, il a quelque chose d'innocent. Donc, il parle avec ce qu'il connaît et il sent que, enfin, je ne sais, il ne sent, il, en tout cas, il passe par cette voie-là, par le super-héros. Pour effectivement attraper sa mère.
Alors vous passez par la dramaturgie dite familiale classique, mais aussi par un cinéma de genre, c'est-à-dire le cinéma des compétitions sportives.
Disons que c'est le contexte, la compétition sportive, parce qu'évidemment ça nous permet de mettre un enjeu tout de suite qui est très clair, qui est gagner cette compétition. Et gagner cette compétition représente tant d'années de travail, tant d'années de souffrance, de solitude, de sacrifice.
Évidemment. Tout en sachant que ce sont les moments clés de votre film, c'est-à-dire la tension est à son comble.
Oui, parce que c'est le moment, voilà, c'est là où le petit grain... C'est un monde parfait, tout doit être parfait, tout est millimétré, tout est mesuré. Donc évidemment, dès qu'il y a un petit grain de sable, et ce grain de sable c'est un enfant, évidemment ça enraye toute la machine. Et là, il y a de la place justement pour l'humain, puisqu'on part de la machine, du corps machine, du corps objet, et petit à petit, le corps va se... déconstruire, pour se reconstruire et revenir à l'humain.
Comment vous avez travaillé, Elsa Amiel, sachant que qu'une bonne partie du casting, des comédiens, donc, ne sont pas professionnels, ils sont plutôt bodybuilders.
Bon, elle ne pouvait être que bodybuildeuse, enfin en tout cas pour le rôle de Léa Pearl, évidemment. Ouais. Je ne vous cache pas qu'à un moment donné, on a émis l'hypothèse de demander à une actrice de s'entraîner, mais vous imaginez que bien que c'était impossible d'atteindre ce niveau. Et puis aussi parce que c'était la matière première du film, donc ça avait du sens parce que c'était elle, parce que c'était une vraie bodybuildeuse et qu'elle venait avec sa matière véritable, sa matière documentaire, sur laquelle aussi je me suis appuyée, évidemment, même si le personnage était très écrit, je me nourrissais de ce qu'était vraiment Julia Fleury. Et je pense qu'elle a accepté aussi parce qu'elle sentait qu'elle s'y retrouvait dans ce personnage. Et ça me plaisait aussi de confronter, mais ça je crois que c'est par ma formation avec Mathieu Amalric, avec Emmanuel Finkiel, qui travaille avec cette matière du réel, que ce soit en termes de comédien ou même de décor, de situation, de confronter le réel avec notre idée de la fiction. Et ça, j'aimais aussi cette idée de me dire, voilà, c'est un terrain de recherche et de rencontre entre des non professionnels, on va dire, et des acteurs reconnus.
Voilà. Auriez-vous fait le même film, Elsa Amiel, si à la place de Pearl, c'était un homme, c'est-à-dire si au lieu de parler des bodybuilders, vous avez parlé des bodybuilders?
Ce qui m'intéressait aussi, dès le début de l'écriture, c'était de questionner des formes de la féminité, d'aller à l'encontre de la norme féminine. Donc c'était forcément pour une femme. Et puis il y a je voulais la maternité faisant partie de ces formes de féminité. Et puis aussi, je dois avouer que c'était un terrain complètement vierge, c'est-à-dire il n'y a pas d'héroïne, de bodybuildeuse dans le cinéma. Moi j'en connais pas. Enfin,
peut-être dans les aventures de Crumb en bande dessinée. Et là aussi, c'est les États-Unis, c'est pas la France, mais
absolument, absolument.
Pas ici, pas en France. Vous avez raison.
Voilà, et je me suis dit un terrain vierge, c'est formidable parce que c'est à la fois vertigineux parce qu'on n'a aucune référence et à la fois c'est très excitant parce qu'on peut tout inventer. Donc là, j'avais de l'espace voilà, pour travailler sur ce personnage.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
The mood is set, so you already know what's next. TV on blast, turn it down, don't want it to clash with my body screaming out now. I know you're hearing it, you got me moaning now. I got a secret that I wanna show you, oh. I got a secret, so I'ma drop them to the floor. And no teasing, you waited long enough. Go deep, I'ma throw it at you, can you catch it? Don't hold back, you know I like it rough. Know I'm feeling you, huh? Know you're liking it, huh? So why you standing over there with your clothes on? Baby, strip down for me, gon' take them off. Don't worry, baby, I'ma meet you halfway, cause I know you wanna see me. Almost there, so baby, don't stop what you're doing, Softer than the mother boy, I know you wanna touch. Breathing down my neck, I could tell you wanna. And now you want it like, want you to feel it now. Got a secret that I wanna show you. Ooh. I got a secret, so I'ma drop 'em to the floor. Ooh.
Rihanna sur France Culture, le réveil culturel avec Elsa Amiel à l'occasion de la sortie de son premier long métrage, aujourd'hui Pearl. On a parlé donc de ce milieu particulier des femmes qui pratiquent le bodybuilding, les bodybuildeuses qui sont aussi des sportifs qui s'adonnent à des compétitions. Vous nous avez parlé de votre rapport à ce milieu, au fait que elles sont très invisibles d'ailleurs, hein, ces femmes. Est-ce que c'est mal vu d'ailleurs de pratiquer ce sport dans la France d'aujourd'hui, Elsa Amiel, vous qui les avez longtemps accompagnées?
Dans la France, enfin en France oui, et je dirais même dans le monde. Pour tout vous dire, quand j'ai commencé à écrire, il y avait encore la catégorie des bodybuildeuses. Donc qui sont les femmes les plus musclées. Et depuis quelques années, les fédérations ont décidé d'arrêter cette catégorie parce qu'ils trouvaient que ça donnait une mauvaise image de la femme. Donc en fait, la catégorie de Julia Fury dans le film, c'est Woman's Physique. Mmh. Donc c'est un peu moins musclé, ça reste très musclé, mais c'est un peu moins musclé que les bodybuildeuses. Et ça joue sur une extrême féminité aussi, de cheveux, de maquillage, de bijoux, tout ça est autorisé. Donc effectivement, même les fédérations, si vous voulez, de cette discipline, interdisent ce niveau-là de compétition pour les femmes. Donc voilà, on revient toujours sur la question de la norme et sur
moi, j'ai noté que les revues spécialisées consacrées au bodybuilding qui existent en France sont effectivement rangées pas très loin des revues pornographiques.
Oui, ça flirte avec. Enfin, ça flirte. Le bodybuilding très souvent flirte avec le porno, mais parce que il y a un côté extrême, on l'a dit, mais qui est un peu
exhibe, je dirais aussi.
Exhibe aussi, et pourtant sont des athlètes extrêmement pudiques. Malgré tout, je crois qu'il y a aussi un goût pour là-dedans, pour l'étrange.
Pour l'étrange ou pour la performance?
Pour l'étrange, là je dis quand ça flirte avec le porno.
Oui.
L'autre mot que vous aviez employé,
performance.
Pour la performance...
Dépasser toujours ses limites, s'entraîner, avoir les muscles les mieux tracés. Est-ce que ce sont les mêmes raisons pour aller très vite, Elsa et Miel, qui amènent les femmes et les hommes à pratiquer ce sport extrême?
Oui, je pense qu'à la base, ce sont les mêmes raisons. Je dirais ça. Après, je dirais que pour la femme, il y a évidemment un dépassement de soi qui, moi, me semble encore plus fort que chez les hommes, parce que il y a dépassé tout ce qu'on attend d'une femme. Là, elle s'isole encore plus parce qu'évidemment, avec ce corps-là, leur place dans la société est compliquée. Évidemment, elles sont tout de suite traitées de phénomènes, de créatures, de monstres. Moi, je vous cache pas que quand on a monté ce film, monté financièrement le film, les réactions ont été très violentes à l'égard du scénario.
Donc, vous vous êtes posé la question, Elsa Miel, comment les filmer, ces corps? Comment filmer ces personnages? Comment éviter que la fameuse image d'Épinal de la bête de foire soit complètement pulvérisée pour installer des personnages à part entière?
Oui, pour être tout à fait honnête, moi j'avais pas peur parce que je n'avais pas cette vision de ces femmes. Pour moi, il y avait, la question ne se posait pas. Évidemment, tout autour de moi, la question se posait systématiquement. Et dans le film, j'ai essayé aussi de petit à petit faire accepter ce corps, c'est-à-dire d'avoir un rapport au corps différent selon les étapes que traversait le personnage, Léa Pearl, pour aussi éviter tout le côté psychologique du personnage. Il n'y a pas tellement de psychologie dans mon film. En fait, tout passe par le corps et par la transformation du corps, ce que traverse le corps. C'est-à-dire que le fait de commencer comme ça sur des plans aussi serrés, c'est-à-dire de morceler le corps, de donner petit à petit le corps, il y a quelque chose d'abstrait. Puis après, de le faire accepter en tant que corps-objet, pour aller jusqu'au corps-spectacle. Et évidemment, tout ça en passant par le corps de la mère.
Humain, donc.
Humain, charnel, sensuel, qu'on peut toucher. Voilà, il y a tout un trajet comme ça, enfin une vraie réflexion sur comment on donne le corps petit à petit au...
Et comment déconstruire les préjugés? Est-ce que c'était au centre de votre questionnement, Elsa Miel? Il y a quelques jours, même si j'ai pas envie de réouvrir cette polémique, mais la polémique de Yann Moix autour des corps des femmes de 50 ans et plus, est-ce que ça vous a interpellé?
Oui, ça m'interpelle, mais ça m'interpelle chaque jour et ça m'interpelle encore aujourd'hui avec la sortie du film, où je sens que on n'est pas prêt encore à accepter une femme qui aurait choisi cette voie-là. On a encore un long chemin à faire, je crois, avec la liberté de la femme. Je ne mesurais pas ça en commençant à écrire ce film. J'ai commencé à écrire il y a 7 ans, donc on était bien avant toutes ces questions. Voilà, balance ton porc, enfin toutes ces choses-là. Et je dois dire que voilà, aujourd'hui, enfin le film s'est écrit, s'est financé, aujourd'hui sort dans les salles. Je sens que c'est une bataille de tous les jours de revendiquer un personnage comme ça. On m'a demandé souvent, pendant l'écriture, de penser à un personnage qui serait un peu moins musclé, qui serait un peu plus féminin. Mais tout l'intérêt du film, c'était ça, c'est-à-dire, c'est une femme qui s'est construit ce corps-là, qui a décidé de cette vie-là, qui a fait ce choix-là, qui ne s'est pas sentie mère. Et le film va raconter comment, justement, elle va écouter son instinct. Son instinct de femme, voilà. Et renouer avec elle, comment elle se sent femme, comment elle est femme.
C'est un premier film, un beau film que je vous recommande vivement, Pearl, de Elsa Miel, mon invitée ce matin. Merci d'avoir répondu à mon invitation.
Merci à vous.
Et bon courage pour aujourd'hui.
Merci.
êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Phoenix d'Anne-Sophie Barani dans le cadre du festival Reims Scène d'Europe. Cette pièce, mise en scène par Suzanne Osten, se saisit d'une figure exceptionnelle, la grande poétesse russe Marina Tsvetaeva, connue pour son tempérament de feu. Dans son poème dramatique, Le Phénix, un vieil homme et une jeune fille se lancent dans un jeu de désir, où la rencontre amoureuse oscille entre le possible et l'interdit. Phénix, les 30 et 31 janvier à la Comédie de Reims, dans le cadre du festival Reims Scène d'Europe. Un partenariat France Culture. Chaque jour à midi, La Grande Table par Olivia Gesbert.
Toute l'actualité de la culture et des idées, à l'heure du déjeuner, des rencontres plaisir, des livres coup de cœur, des penseurs positifs et d'autres qui nous alertent. Je vous attends en direct ou en podcast sur franceculture.fr.
Ce mercredi dans La Grande Table, le plus russe des écrivains français, Andrei Makine, qui publie Au-delà des frontières souvent chez lui faites pour être franchies et dépassées. En dialogue en seconde partie avec Catherine Haas, anthropologue et essayiste pour Aujourd'hui la guerre. Ce mercredi dès midi et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, tout de suite le journal de 6h30 avec Anne-Laure Chouin.
Bonjour à tous. Le dialogue de sourds continue entre Bruxelles et les élus britanniques. Hier soir, ces derniers ont adopté un amendement qui donne licence à Theresa May d'aller renégocier l'accord du Brexit sur le sujet du rétablissement d'une frontière en Irlande. Un répit pour la Première ministre, une perte de temps pour Bruxelles. C'est ce que nous dira Angélique Bouin. À Chypre, le sujet du Sea-Watch, ce bateau d'une ONG allemande, s'est invité dans le sommet européen sur les migrations. La CEDH a exigé hier de l'Italie qu'elle le laisse accoster. Nous reviendrons également sur les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, dont les relations se discutent aujourd'hui même. Et puis en France, faut-il ou non rapatrier les djihadistes français partis en Syrie et détenus sur place? La question s'est reposée hier. Elle a obtenu de son Parlement de renégocier l'accord du Brexit, à défaut de pouvoir l'obtenir de Bruxelles. Hier, deux mois pile avant le 29 mars, date officielle du Brexit, 317 députés britanniques contre 301 ont voté un amendement qui demande à Theresa May de modifier l'accord de retrait négocié avec l'Union européenne, en particulier la clause de sauvegarde sur la frontière irlandaise, ce backstop au centre de toutes les discussions. Une façon de gagner un peu de temps, puisque Bruxelles ne souhaite de toute façon pas discuter plus. À Bruxelles, justement, la correspondance d'Angélique Bouin.
La partie de ping-pong continue entre Londres et Bruxelles dans une unité affichée toujours parfaite côté européen. L'accord de retrait n'est pas négociable, a immédiatement déclaré hier soir un porte-parole du président du Conseil européen. Mais si les positions du Royaume-Uni pour le futur partenariat devaient évoluer, alors l'Union serait prête à reconsidérer son offre. En clair, on ne revient pas sur les 17 mois de négociations, sur le filet de sécurité qui doit éviter le retour d'une frontière physique en Irlande du Nord. Il doit s'appliquer à compter du 29 mars. Le temps nécessaire pour trouver une meilleure solution. La position des 27 ne change pas d'une virgule, mais les options pour trouver des mécanismes alternatifs au backstop existent bien, rappellent certains diplomates, atterrés devant le temps perdu par Londres. Tout dépend de ce que Theresa May entend par rouvrir les négociations. On devrait être rapidement fixé. Elle ne dispose que de 15 jours pour revenir à Bruxelles clarifier sa position.
Et c'est dans ce contexte où les polices d'Irlande du Nord et de la République d'Irlande redoutent une reprise du conflit nord-irlandais qu'un groupe qui dit être l'IRA a revendiqué hier dans un communiqué l'attentat à la voiture piégée commis le 19 janvier devant un tribunal à Londonderry. L'explosion n'avait pas fait de victimes. Notre combat continue, lit-on dans ce communiqué. Les précisions de notre correspondant à Belfast, Eric Biegala.
Une revendication signée IRA pour Irish Republican Army, armée républicaine irlandaise, et non de l'un des groupes se réclamant de la poursuite de la lutte armée, comme la Real IRA ou la Nouvelle IRA, vers qui les soupçons policiers se dirigeaient jusque-là. Quels qu'ils soient, les activistes ont bien pris soin cependant d'indiquer dans leur communiqué que le Brexit ou les atermoiements quant à une frontière dure ou douce en Irlande, à l'issue de ce Brexit, n'avaient strictement rien à voir avec leurs agissements. Ceux-ci ne sont, indique encore le communiqué, que la perpétuation, je cite, du combat contre l'Empire britannique. politique. Le groupe annonce vouloir s'en prendre aux forces de la couronne, à leur personnel, et menace également tous les collaborateurs des Britanniques dans l'île. La voiture piégée qui a explosé au milieu de la rue devant le palais de justice de Londonderry, peu après 20h le 19 janvier, n'avait pas fait de victimes, mais il s'en est fallu de peu. Comme durant les vagues d'attentats des années 70 et 80, la police locale avait été prévenue 15 minutes avant l'explosion d'évacuer la zone. Certains habitants avaient effectivement été prévenus et évacués. Un asile pour personnes âgées avait également été évacué. En revanche, un groupe d'adolescents qui déambulait dans la rue était passé à proximité immédiate de la voiture, une à deux minutes avant qu'elle n'explose.
Éric Biegala, la Cour européenne des droits de l'homme a ordonné hier à l'Italie de porter assistance au Sea-Watch, ce navire d'une ONG allemande qui transporte à son bord 47 migrants recueillis au large de la Libye. Le gouvernement italien refuse pour l'instant de le laisser accoster. Le bateau s'est retrouvé hier au centre des discussions, au sommet sur les migrations de Chypre où se retrouvaient les dirigeants d'Europe du Sud. Sur place, les précisions de Bertrand Galichet.
Le navire de l'ONG allemande Sea-Watch s'est imposé hier au sommet de Chypre où la question des migrants en Méditerranée était au programme. Emmanuel Macron y voit une illustration des défis à relever en commun pour les pays du sud de l'Europe, dont la France.
Au moment où nous parlons, un navire, le Sea-Watch 3, se trouve à proximité de la Sicile avec 47 migrants à bord. Nous l'avons évoqué également avec le Premier ministre italien. Je pense que cette solidarité dont nous parlons doit être appliquée de manière concrète, pleine et entière.
Le président milite pour un débarquement des migrants dans le port le plus proche, donc en Italie, et plaide pour une répartition de leur prise en charge. La France est prête à y participer. En remerciant les pays amis, le dirigeant italien Giuseppe Conte regrette le manque de réalisme de l'Europe. C'est une incapacité que nous déplorons tous, dit-il, en insistant sur la nécessité de trouver un mécanisme pérenne. Selon lui, l'Europe risque d'imploser parce qu'elle traîne pour trouver des solutions.
2275 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe l'année dernière, des chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un accord de principe sur quelques questions très importantes. Hier, alors que les négociations entre les talibans et les États-Unis ont recommencé au Qatar, l'émissaire américain pour l'Afghanistan s'est félicité de l'avancée de ces négociations. Rien n'indique encore que la paix en Afghanistan soit à portée de main, mais les Américains qui souhaitent en retirer leurs troupes se montre optimiste. On y reviendra plus largement dans notre journal de 8 heures. Le sujet empoisonne leurs relations pratiquement depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. La Chine et les États-Unis se retrouvent aujourd'hui et demain pour évoquer leurs relations commerciales. Les deux superpuissances économiques doivent trouver un accord avant le 1er mars, date de la fin de la trêve commerciale entre les deux pays. Trêve aménagée après la surenchère d'annonces de taxes de la part des deux gouvernements. La Maison-Blanche avait notamment menacé d'augmenter les taxes douanières à 25% sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises. Alors on a beaucoup parlé du soja, de l'acier ou de l'aluminium chinois, mais beaucoup d'autres secteurs de l'économie souffrent. Exemple avec ce reportage de Dominique André dans une fabrique d'instruments de musique.
Les deux tiers des instruments de musique vendus dans le monde proviennent de Chine. L'usine Sweeping ne compte que 25 employés, mais elle est renommée à l'international pour la qualité de ses violons. L'entreprise fabrique 3000 instruments par an, dont 2000 sont vendus aux États-Unis. Les effets de la guerre commerciale se font sentir, reconnaît le responsable des ventes de la fabrique Sweeping, Wang Ruoqi.
En Chine, une grande usine de guitare peut produire jusqu'à 10 000 instruments par mois. Ils travaillent sur une chaîne industrielle et ce genre d'usine est plus touché que nous. Ces tensions entre les États, pour les gens comme nous, ont bien sûr des conséquences, mais je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls à être concernés. Les entreprises américaines sont aussi touchées. De toute façon, j'espère bien que ça va se terminer le plus tôt possible. Pour notre usine de violon, les États-Unis représentent notre premier marché. Depuis le deuxième semestre de l'an dernier, nous avons commencé à réfléchir à augmenter nos ventes au marché intérieur chinois.
Mais les célèbres violons du luthier Sweeping ne suffiront pas à amadouer Donald Trump. Au-delà de la réduction du déficit américain en Chine, le président américain veut des réformes structurelles de l'économie chinoise. La Chine serait prête à faire des concessions, selon les experts, mais ne remettra pas en cause ces grandes entreprises publiques.
Un reportage de Dominique André, où se repose la question du devenir des djihadistes français détenus en Syrie. Hier, BFM TV croyait savoir que 130 personnes allaient être rapatriées depuis la zone syrienne contrôlée par les Kurdes. Devant l'Assemblée hier après-midi, le ministre de l'Intérieur a démenti ce chiffre. En revanche, Christophe Castaner n'a pas exclu le retour en France d'une partie de ces djihadistes. Jean-Charles Brizard est président du Centre d'analyse du terrorisme. Selon lui, ce rapatriement, serait la meilleure solution car les Kurdes n'ont pas les moyens de les surveiller sur le long terme. Il était hier l'invité du journal de 22h.
C'est le principe, hein, les groupes armés qui effectivement capturent sur un théâtre dans le cadre d'un conflit armé non international, c'est le cas en Syrie, peuvent effectivement capturer des individus et peuvent effectivement a fortiori également les juger. En l'occurrence, on se rend compte de quoi ? D'abord, la structure de ce groupe armé des Kurdes de Syrie est très embryonnaire, l'appareil judiciaire est quasi inexistant, les conditions de détention ne permettent pas, encore une fois, de garantir que les djihadistes français ne puissent pas s'échapper. Il y a encore une fois de véritables menaces, donc tout ça pèse sur la décision et le devenir de ces djihadistes eux-mêmes, évidemment, et sur la manière dont on va traiter leur situation. Et je crois qu'effectivement, il est beaucoup plus sage de penser qu'on puisse rapatrier, enfin en tout cas transférer, puisque c'est un transfert qu'on va opérer de ces djihadistes vers la France pour qu'ils soient concrètement détenus dans nos prisons et puis ensuite qu'ils puissent effectivement répondre de leurs actes devant une cour d'assises. C'est ce qui les attend. Ce qui va se passer avec les djihadistes le français se passe de la même manière aujourd'hui avec les djihadistes, par exemple, américains. Les États-Unis ont conclu des accords informels avec soit les Kurdes de Syrie, soit les Kurdes d'Irak, pour procéder au cas par cas, au transfert de ces personnes. Un individu interpellé il y a 10 jours de cela par les Kurdes de Syrie est déjà sur le sol américain et il sera jugé par un tribunal américain.
Jean-Charles Brizard, interrogé par Stanislas Vazak. Un mot du temps de ce mercredi, il va continuer de neiger ce matin jusqu'en plaine, du nord-est à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le vent va souffler fort sur la côte atlantique, ciel plus lumineux sur la Méditerranée. Les températures comptées ce matin entre 0 et moins 5 degrés de l'intérieur vers les côtes. Cet après-midi, il fera de 1 à 11 degrés du nord au sud. 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
C'est l'heure de votre journal des idées. Alors ce matin, vous évoquez le débat sur l'intelligence artificielle capable du meilleur comme du pire.
Oui, et le meilleur est déjà entré dans les faits. La traduction automatique, le dépistage du cancer, la robotique, la falsification des fake news. Des intelligences artificielles ont même résolu l'énigme moderne du Sphinx, monter une chaise Ikea, s'amuse Tad Friend dans un article très documenté du New Yorker, publié par le mensuel Books. Mais il rappelle qu'Alan Turing, pionnier en la matière, redoutait que les machines finissent par prendre le contrôle. Et l'un de ses collègues évoquait même la possibilité que des systèmes intelligents puissent en concevoir de plus intelligents, et ce à l'infini. Il est vrai que certaines applications préfigurent un avenir menaçant. Les armes autonomes sont déjà engagées dans une trajectoire digne du docteur Folamour. Et le programme chinois de reconnaissance faciale qui collecte des images de vidéosurveillance doit être incorporé au système de crédit social qui attribue aux citoyens chinois une note basée sur son comportement, y compris quand il s'agit de traverser la rue. L'intérêt de l'article est aussi d'explorer les limites de l'intelligence artificielle et de citer les études qui tentent de discerner les différences avec la nôtre intelligence, malgré un fonctionnement calqué sur celui du cerveau humain. Des tâches qui nous paraissent difficiles sont un jeu d'enfant pour l'ordinateur et inversement. C'est le paradoxe du roboticien Hans Moravec. Il est relativement facile de faire en sorte qu'un ordinateur affiche des performances d'adulte aux tests d'intelligence ou aux jeux de dames, et difficile ou impossible de lui donner les compétences d'un enfant de 1 an, quand il s'agit de perception et de mobilité, ou de la préhension avec la main. L'ambiguïté n'est pas le fort de la machine, là c'est notre bon sens qui l'emporte, et quand un algorithme décide qui recruter, ou à qui accorder la liberté conditionnelle, il n'est pas en mesure de nous exposer son raisonnement. Cela dit, il peut nous arriver d'être aussi prévisible que des machines, c'est ce qui permet aux moteurs de recherche intuitifs de deviner non seulement lesquels de nos activités sur les réseaux sociaux indiquent que nous sommes prêts à l'acte d'achat, mais aussi comment anticiper les objections au cours du parcours d'achat. Aujourd'hui, l'une des finalités essentielles de l'intelligence artificielle est d'optimiser les ventes. Quand une entreprise injectera de l'anthropomorphisme dans l'apprentissage machine, il deviendra impossible de résister aux moteurs de recommandation, ces algorithmes qui poussent en temps réel à la consommation sur les sites marchands. L'un des rêves vendus par l'intelligence artificielle est qu'elle nous libérerait à terme de la damnation du travail. Mais entre les désirs à assouvir des consommateurs et les propositions des marques commerciales, il y a des usines à clics, on dit aussi des fermes à clics, qui n'ont rien à voir avec les algorithmes intelligents et qui sont localisées dans les pays émergents où la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher qu'une équipe d'informaticiens spécialisés dans le développement de solutions automatiques. Antonio Casilli a mis au jour cette exploitation du travail dans un livre publié au Seuil sous le titre « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic ». Des employés sous-payés collectent un maximum d'informations pour faire le travail du robot. Textes, photos, vidéos, transactions financières et fréquentation de sites d'information ou autres. De quoi alimenter en données les algorithmes. C'est ainsi que pour quelques centimes par clic, les humains volent le job des robots. C'est ce que le sociologue appelle la tâcheronisation, une forme nouvelle de division du travail, le taylorisme numérique. Il ne signifie pas la disparition du travail, mais celle des métiers, comme le souligne Dominique Méda dans la postface du livre, et surtout une forme d'occultation. C'est le cas également du modèle techno-économique des plateformes numériques, Uber et autres. Plateformisation et tâcheronisation se conjuguent pour précariser et vider de son sens le travail, une manière aussi de miner le droit du travail, présenté comme une entrave aux libertés de circulation. Dans les pages idées de Libération, Rachid Zerouki évoque les outils pédagogiques d'apprentissage et d'évaluation qui, aux États-Unis comme en Europe, intègrent l'intelligence artificielle et prétendent répondre aux difficultés scolaires. Professeur en SECPA à Marseille, il estime que s'ils peuvent contribuer à faire acquérir des automatismes aux utilisateurs, ils oublient le sens profond des apprentissages pour aboutir à une approche technocratique des compétences proches du behaviorisme ou du management libéral et éloignées des finalités éducatives que sont l'esprit critique, la réflexion et l'argumentation, ainsi que le sens du collectif. Philippe Vatrelot, spécialiste de pédagogie, rappelle que le taylorisme a dépossédé de leur expertise les ouvriers pour les conduire à un travail prescrit par des ingénieurs. De même, les enseignants seraient réduits à appliquer des procédures définies en dehors de leur domaine de compétences. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et on va au Mexique, notamment au Chiapas.
C'est ça, au Mexique.
Des nouvelles du Chiapas.
Du Chiapas et le Mexique où va aussi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, premier chef d'État reçu officiellement par le président mexicain AMLO, Andrés Manuel López Obrador. L'occasion pour lui de marquer son positionnement à gauche, un basculement du pays, disent certains, alors que son mandat commence de manière offensive, il est vrai, contre la pauvreté, la corruption et peut-être la gauche, l'autre gauche dans les Chiapas d'où vous revenez. Bonjour François-Xavier Frelon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Vous êtes journaliste indépendant et documentariste, ancien correspondant RFI en Amérique latine. Donc vous revenez du Chiapas où l'armée zapatiste de Libération nationale fête les 25 ans de sa révolte. C'est une gauche assez différente des grands projets d'AMLO. On va en parler, mais d'abord juste un point sur l'international, puisque Pedro Sanchez s'y trouve aujourd'hui. AMLO a aussi marqué sa différence au sein de l'Amérique latine en soutenant le Venezuela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un positionnement symbolique ou un réel changement?
Alors, AMLO a été diplomate. Il a refusé de signer la déclaration de Lima. Vous vous souvenez, c'était ces pays qui s'étaient retrouvés à Lima, au Pérou, pour contester le deuxième mandat du président Maduro. Vous savez que son élection a été remise en question, n'a pas été reconnue par la communauté internationale de mai dernier. Or, si Obrador ou AMLO, comme on l'appelle, n'a pas signé donc cette convention, il ne s'est pas, ou cette déclaration, il ne s'est pas rendu non plus à la prise de pouvoir, à la prise de fonction de Maduro quelques jours plus tard, au mois de janvier, pour marquer aussi sans doute, eh bien, que à la fois il le reconnaissait, mais que c'était un demi-ticket dans cette reconnaissance à l'égard de Maduro.
Oui, c'est ce que lui-même a appelé une certaine prudence diplomatique, un principe. On va voir ce qu'il obtient de Pedro Sanchez, peut-être infléchir ses positions. Un mot sur AMLO au sein du Mexique, quand même, c'est un personnage qui a un passé, hein, deux fois candidat, mais qui a dû créer un nouveau mouvement pour émerger et faire basculer la gauche. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, évidemment, il génère beaucoup d'attentes, hein, de la part de son électorat, et puis aussi on imagine bien des milieux défavorisés populaires mexicains. C'est quand même un pays qui a été dirigé pendant près de 70 ans par un seul parti, le PRI, hein, le Parti Révolutionnaire Institutionnel, qui était à la base un parti né de la Révolution mexicaine, plutôt à gauche, mais qui s'était perdu, eh bien, dans un néolibéralisme. Et puis surtout, qui a été accusé pendant très longtemps de corruption généralisée. Il représente un nouveau souffle pour cette démocratie mexicaine. Il faut quand même pas oublier qu'il vient quand même du PRI, et ça on lui reproche et on lui rappelle régulièrement. Pour certains, c'est un sous-marin du PRI, c'est un ancien déguisé aujourd'hui en homme progressiste, mais qui a quand même été modelé par ce parti. Donc c'est un centralisateur, c'est un leader. On l'a beaucoup comparé à Chavez, on le compare encore à Chavez, et certains le craignent à cause de ça, qu'il fasse un peu la même politique avec les mêmes résultats que l'on connaît aujourd'hui au Venezuela. Mais c'est un homme qui, effectivement, sait aussi séduire les foules, assez bon orateur, apprécié dans les milieux bourgeois aussi, puisque il est très proche des milieux intellectuels grâce à son épouse, notamment mexicain. Donc c'est pour le moment quelqu'un qui a une petite chance, mais qui risque d'être à la fois critiqué par la frange libérale, oui, par le Nord, les États-Unis, et puis par sa propre gauche.
Alors on va en dire un mot, effectivement, hein, lui anti-libéral, en position de force aux deux assemblées, qui a gagné 5 États, qui parle bien, vous l'avez dit, il a fait ce discours d'investiture le 1er décembre devant 160 000 personnes. Un mois plus tard, c'est là, vous y étiez le 31 décembre, c'était le nouvel an et les 25 ans de la révolte zapatiste dans les Chiapas, on écoute. Viva, viva Zapata, viva Mexico aussi, mais pas viva forcément AMLO, c'est ça ?
Et non, pas trop. Alors effectivement, moi je suis arrivé le 31 décembre dernier dans cette communauté, dans ce village, La Realidad, hein, la même où avait été assassiné un certain instituteur qui s'appelle Galeano et qui a donné son nouveau nom au sous-commandant Marcos, hein, qui s'appelle désormais sous-commandant Galeano. On se souvient
de assassiné en 2014.
Oui. Voilà, 2014, on se souvient du sous-commandant Marcos, l'homme au passe-montagne, à la pipe, qui avait rendu célèbre cette lutte, hein, dès 1994 avec le soulèvement. Donc je me suis rendu à l'anniversaire, aux 25 ans, dans une ambiance très festive, en même temps avec des hommes cagoulés, armés, mais beaucoup de jeunes sympathisants de gauche qui étaient venus, eh bien, écouter un petit peu les paroles de leur leader, sauf que le sous-commandant Marcos aujourd'hui ne joue plus vraiment un grand rôle au sein des zapatistes, c'est plutôt Moïsès, hein, qui a repris le flambeau, qui est un Indien, lui, d'origine, et le sous-commandant Moïsès a eu des mots très durs à l'encontre des projets un petit peu pharaoniques de AMLO, notamment en termes d'infrastructure, avec ce fameux train Maya, qu'il veut créer, donc AMLO, pour désenclaver le Sud, mais aussi créer un petit peu une grande voie de transport touristique entre Cancun et le Chiapas.
Alors vous avez dit beaucoup de choses, et notamment que Moïsès, donc son nouveau sous-commandant, est un autochtone, que s'il y a beaucoup de grands projets d'AMLO qui se situent dans les Chiapas, ce train Maya, est-ce que c'est pas un peu le test pour la politique de développement d'AMLO, justement, lui qui a fait un référendum pour faire approuver ce train Maya, un projet faramineux qui est rejeté par un certain nombre de pétitionnaires et les communautés autochtones, mais il a laissé une ouverture en disant qu'ils pourraient avoir leur part. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
On va voir dans les prochains mois. En tout cas, il y a déjà un bras de fer qui est en train de se créer entre ces deux gauches mexicaines. Et d'ailleurs, l'arrivée au pouvoir enfin au Mexique, hein, pour la gauche qui l'attendait, qui attendait ce messie quelque part depuis longtemps, eh bien, redonne un petit peu d'énergie à ces apatistes qui avaient complètement disparu des écrans depuis quelques années, justement parce qu'on est dans deux visions de la construction du monde. D'un côté, vous avez donc cette gauche centralisatrice, hein, de AMLO, avec des grands projets de développement un petit peu populistes, et puis de l'autre, et puis surtout avec un leadership, hein, qui est AMLO, et puis de l'autre, vous avez cette gauche beaucoup plus régionaliste, autonomiste, qui est la gauche de l'EZLN, hein, de l'armée zapatiste de libération nationale, anti-leadership, hein, c'est pour ça qu'ils sont cagoulés. Et on voit bien que ce sont, eh bien, deux philosophies différentes. L'une, eh bien, beaucoup plus dans le style, on va dire, des Castro, des Chavez et compagnie, et l'autre, eh bien, qui essaye de créer autre chose et qui rappelle parfois un petit peu dans son organisation ce qu'on a vu notamment à Notre-Dame-des-Champs avec les zadistes.
Oui, avec un souci écologiste véritable, puisque la majorité des pétitions ont été faites aussi par des professeurs, et c'était l'argument ce train risque de détruire un certain nombre de projets. Il y a également l'isthme de Tehuantepec, dans lequel une ligne ferroviaire doit être créée. Est-ce que ça inquiète également le ZLN, puisqu'elle passe au nord des Chiapas, cette ligne?
Oui, alors, en fait, ce que n'apprécie pas le ZLN, ils se connaissent bien. AMLO a rencontré plusieurs fois Marcos, notamment au moment des accords de paix qui n'ont pas été tout à fait respectés en 1996, les fameux accords de San Andrés. Et en fait, depuis, il y a une sorte toujours de sentiment de trahison de la part d'AMLO et de cette gauche, on va dire, libérale, du point de vue des apatistes, qui sont restés quand même marxistes-léninistes, accrochés à de vieilles idéologies, même s'ils ont totalement évolué, comme aujourd'hui ils se disent plus écologistes, humanistes que totalement guévaristes.
Ouais. Et dernière chose, alors, il y a le ZLN, donc l'armée de zapatistes de libération nationale, qui a publié plusieurs communiqués, notamment le dernier, le 1er janvier, qui rejetait les projets d'AMLO et qui disait « Nous allons faire face, nous n'allons pas laisser son projet de destruction se dérouler ici. Nous n'avons pas peur de sa garde nationale », donc autre projet d'AMLO aussi, qui a changé de nom pour ne pas dire que l'armée est la même, nous le savons. Qu'est-ce que ça veut dire, le ZLN mobilise de nouveau?
Eh oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient encore armés, ils ont des kalachnikovs, ils se sont déjà battus. C'est plutôt une guérilla pacifique ou pacifiste, mais ils sont prêts à reprendre des armes pour défendre leur territoire. Ils s'auto-gèrent, hein, je vous le rappelle. C'est des gouvernements, des conseils de bons gouvernements qui ont été créés dans ces régions-là. On rentre en territoire zapatiste, hein, dans certaines régions du Chiapas. Donc c'est vraiment des gens qui se sont organisés pour défendre les intérêts indiens ou autochtones. Donc pour eux, eh bien, tout va se jouer dans les prochains mois. Je recommande d'ailleurs à vos auditeurs de lire La rébellion zapatiste de Jérôme Bachet, qui vient de ressortir, qui leur donnera beaucoup de détails sur cette lutte zapatiste.
C'est ça, réédité en janvier dernier. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos explications, François-Xavier Frelan. On suivra vos reportages évidemment dans les Chiapas et vous nous reparlerez du Mexique ou du Venezuela bientôt. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le festival littéraire Jardin d'hiver à Rennes. Durant 3 jours, les champs libres se métamorphosent en jardin d'hiver où fleurissent des propositions inédites pour savourer la littérature. Concerts littéraires, escape game, création d'étudiants, lecture publique. Parmi les nombreux invités, retrouvez notamment Maëlys de Kerangal, Pauline de Labroix-Allard, Éric Guillard et Mona Ouzouf. Jardin d'hiver, du 1er au 3 février, aux champs libres à Rennes. Un partenariat France Culture. Dans le cadre de la 4e édition de la Nuit des idées, face au présent dans Matière à penser, relire, décrypter, s'engager autrement, une semaine commune autour de grands enjeux contemporains. Crise du langage et fake news, nouvelles lois de bioéthique, inégalité et environnement, liberté et sécurité. Face au présent, invités Barbara Cassin, Patrick Savidan, Michael Fossel, Fanny Taillandier et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. De lundi à vendredi, Matière à penser à 22h15 et sur franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, nous retrouvons les matins avec Guillaume Herner. Bonjour Guillaume, de retour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à tous.
De retour à toute vitesse, puisque la réussite des 80 km/h, c'est une question, doit-elle nous faire appuyer sur le champignon?
Oui, la diminution du nombre de morts sur les routes doit-elle nous faire appuyer sur le champignon? Et si j'emploie l'expression de champignon, ce n'est pas seulement parce que France Culture est engagée dans une lutte à mort pour passer devant Rire et Chanson en termes de nombre d'auditeurs, vous allez comprendre. Voilà une vraie question en sciences sociales. Oui ou non, les 80 km km/h sur les routes ont-ils provoqué la diminution du nombre de morts et de blessés? Au vu des intérêts impliqués, constructeurs automobiles, implications politiques de la mesure, il y a tout à parier que la conclusion ne va pas être simple. On peut imaginer une vaste discussion pour savoir si ce qui a joué, c'est par exemple la météo, l'absence de radar, la méthode Coué, le prix du diesel, et j'en passe. Le problème posé par le lien entre 80 km/h et la baisse de la mortalité sur les routes est traditionnel en sciences sociales, puisqu'il s'agit de la question de la corrélation. Peut-on imaginer une corrélation sans cause? À partir du moment où on assiste à une association ici entre baisse de la vitesse et baisse des accidents, comment l'interpréter? Et à ce stade, vous vous demandez, Xavier, ce que peuvent bien faire les champignons dans le problème posé par la corrélation. Eh bien, figurez-vous qu'il existe un texte signé par deux anthropologues, Valentina et Robert Wasson. Ces deux anthropologues établissaient un lien entre l'attitude des sociétés vis-à-vis des champignons et leur vote. Il existe, nous disent-ils, des peuples mycophiles et d'autres mycophobes. Et pour les Wasson, eh ben, les pays mycophiles votaient très à gauche. C'était alors le cas en Italie et en France, deux pays où on adore les champignons, tandis que les pays du pacte atlantique, donc des pays plutôt mycophobes, auraient tendance, toujours selon les époux Wasson, à détester les champignons et à voter à droite. Et plus on est mycophile, toujours selon, plus on est à gauche. C'est ainsi que les Wasson expliquent par exemple le fait qu'en Russie, il y ait des poème dédié aux champignons, à moins bien entendu qu'on ne puisse pas établir de lien de cause à effet entre amour ou haine des champignons et orientation politique d'une société, que ce soit donc une corrélation sans cause. En revanche, Wasson ne dit pas s'il y a un lien entre le vote à droite ou à gauche, hein, bien sûr, et la consommation de champignons hallucinogènes.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Ce week-end, la visite officielle en Égypte d'Emmanuel Macron a donné lieu à de vifs échanges avec le président Abdel Fattah el-Sissi au sujet des droits de l'homme selon les ONG locales. 60 000 opposants et critiques du régime sont détenus dans les prisons égyptiennes. On fera le point sur la situation en Égypte, mais aussi en Algérie avec des élections qui se profilent et puis la situation également. En Tunisie, nous serons en compagnie de l'historienne Sophie Bessis. Elle sera rejointe aux environs de 8h20 par le directeur de la publication du magazine Jeune Afrique, Marwan Ben Yamed.